Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, je suis Eric Side et vous regardez ou vous écoutez le podcast qui transpire, le catch. Je suis accompagné cette semaine de Bad Karma, comment vas-tu mon fidèle Bad Karma?
Salut tout le monde, salut Ringside, bah écoute, moi ça va bien, comme je te le disais hors antenne, je suis content d'avoir regardé SmackDown cette semaine et d'en faire la review, plutôt que Raw.
Écoute, ça fait un homme heureux dans ce duo. Salut les amis qui débarquent sur le chat, Milo Sorian, Arnaud, Takataichi, merci d'être là les amis, et oui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de SmackDown, le show bleu. Le show favori des fans de catch. On reviendra à Raw la semaine prochaine. Je peux pas laisser mon petit Raw tout seul comme ça. Mais bon, on n'est pas là. On n'est pas là pour parler de ça. Alors on était le 27 novembre. On était à Minneapolis et on démarre le show avec la belle Paige qui est au centre du ring et qui annonce le retour en fanfare de la championne de SmackDown, Becky Lynch, la championne des foules, Steve Austin au féminin, qui débarque avec sa ceinture, et bien qui vient nous expliquer qu'elle est vraiment plus que motivée pour son retour, que Ronda Rousey a de la chance de ne pas l'avoir affrontée. C'était au Survivor Series, qu'elle a tout fait hein, pour aller catcher au Survivor Series, mais elle a été remplacée par Charlotte. Charlotte qui débarque, puisque bah c'est Becky qui lui dit de venir hein, à Charlotte. Il dit on va s'expliquer tout de suite, puisque c'est Charlotte qui avait été en remplacement affronter Ronda Rousey. Elle a passé Ronda Rousey à tabac, à coup de kendo stick, à coup de chaise, à coup de table, à coup de tout ce que vous voulez. Donc Charlotte débarque, Becky la félicite, lui dit c'est bien, t'as fait le taf comme je t'avais demandé de le faire. Hein, je t'avais dit de te taper sur Ronda de la même manière que moi je lui aurais tapé dessus. Mais maintenant, bah, il faut que tu te reprennes parce que tu, visiblement, tu te prends pour moi, hein, tu t'es trop rentré dans le personnage, maintenant il faut en ressortir, c'est pas toi la heel badass, c'est moi, toi t'es la gentille. Charlotte dit non, j'ai pas un problème de schizophrénie, je suis Charlotte Flair, c'est comme ça que ça se masse, c'est moi la queen. C'est elle la reine, et donc, il va falloir régler ses comptes à un moment donné. Donc elle profite aussi pour lancer une petite attaque à Ronda, hein. On va s'expliquer sûrement au Royal Rumble, je pense, avec Ronda aussi, entre Charlotte et Ronda. Mais en tout cas, Paige est surprise de la motivation de ces deux guerrières, elle est satisfaite et elle décide de booker un match pour le Royal Rumble, si je dis pas de bêtises. Ça va s'affronter.
Pour TLC.
C'est TLC. Bah oui, Royal Rumble, ce sera autre chose. TLC, des tables, des leaders, des chairs. Et on va faire l'histoire. Ce sera le premier match féminin avec des tables, des leaders et des chaises. Donc des tables, des échelles et des chaises, hein, si on veut parler français. Mais là-dessus, il y a des jalouses hein, qui débarquent sous le titantron. Donc je crois que dans un premier temps, c'est tout ce que compte SmackDown de Hill qui débarque. Les Iconics. Qu'est-ce qu'on a? Mandy Rose, MMA Fighter, Sonia Deville, et puis sûrement d'autres personnes.
Zelina Vega
est là, bah oui, comment ai-je pu oublier Zelina Vega? Voyons. Donc, elles disent que tout ça c'est une blague, qu'est-ce que ça veut dire? C'est elles qui sont méritantes? Non, c'est nous qui sommes méritantes, etc., etc. Là-dessus, il y a les gentils qui débarquent avec Naomi, Lana, qui c'est qu'il y a d'autres comme gentil? Tu vas m'aider.
Carmela et Asuka.
Carmela et Asuka, et surtout Asuka. Asuka qui reçoit une grosse pop hein, directement. Naomi aussi un petit peu. Les autres, c'est un peu tiédasse, hein, mais bon, c'est un peu normal. Donc, Paige fait ni une ni deux. Vous êtes toutes motivées. C'est très bien. En main event ce soir, un Royal Rumble, enfin un Battle Royale plutôt, comme on dit. La gagnante de cette Battle Royale va s'incruster dans le match à TLC pour une triple frite de 100% charme. Donc ça, ce sera le main event de la soirée. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro, mon bon Bad Karma? Et surtout, est-ce que tu es comme la plupart des suiveurs? Est-ce que tu es perdu? Tu ne sais pas qui est heel, qui est face? Et tu as tes repères qui sont un petit peu bouleversés comme ça.
Alors, ce que j'ai pensé de l'intro, Becky Lynch est de retour. Je suis content. Déjà, rien que ça, ça me va beaucoup. Elle est prête à défier tout le roster une par une s'il le faut. Ça me va aussi. Moi, je suis content. Donc de ce côté-là, tout va bien. Je suis rassuré sur son état de santé. J'ai trouvé bon sur un plan plus personnel, j'ai trouvé très en beauté ce soir dans cette tenue de badass cuir. Moi, ça m'a bien plu. Elle rappelle effectivement qu'elle voulait aller à Survivor Series malgré l'interdiction des médecins, mais qu'on l'en a empêché de vraiment. Elle dit que Charlotte a fait du bon boulot, mais pas du si bon boulot. Mais ouais, bah les petites piques habituelles vis-à-vis de Charlotte. Moi non, jusque-là ça me dérangeait pas. L'annonce du TLC, ça me dérangeait pas. Ça, je disais ouais, ça va être sympa à voir et tout. Et même l'arrivée du reste du roster qui dit mais pourquoi c'est toujours les deux mêmes qui ont tout le temps des title shots, qui s'affrontent tout le temps. Nous aussi, on aurait pu très bien tabasser Ronda aussi. Nous aussi, on aurait pu avoir un title shot. Pourquoi c'est toujours les ex de la team PCB qui ont le droit à leur title shot? Et
Ah, c'est vrai
effectivement.
qu'ils ont été ressortir les teams PCP et les teams
C'est ça.
je
Et
sais plus
Absolution.
là, voilà.
Et voilà, donc sur le principe du discours est cohérent. Je veux dire, c'est vrai que ça fait depuis la fin du règne de Carmella que la ceinture est trustée par Charlotte et Becky. Donc c'est toujours elle qu'on voit dans les main events concernant cette ceinture. Pourquoi les autres n'auraient pas le droit d'avoir une chance? Bah écoute, moi je trouve cohérent leurs arguments. La décision de les foutre en Battle Royale avec la gagnante qui gagne, enfin qui prend du coup une place pour le TLC match, pourquoi pas, hein, on aurait pu imaginer un autre système, mais bon, c'est un moyen rapide d'écrire un combat, donc allons-y, Battle Royale, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi pas. Effectivement, on est toujours un petit peu dans cette logique de booker des pay-per-view assez rapidement, hein, au final, parce qu'on va vite y être à TLC. Si on veut pas une affiche qu'on a déjà vue il y a pas longtemps, bah, il faut s'activer du 109. Asuka, elle est prête, hein, pour ce type de combat. De toute façon, il y a beaucoup de gens trouvent qu'elle est sous-exploitée depuis son arrivée à SmackDown. Là, elle va avoir son spot en pay-per-view à TLC, dans un match qui va sûrement... Ah, je m'avance peut-être, mais ça va être sûrement un des matchs de l'année, hein, je pense, cet affrontement-là.
Merde. Je crois que tu m'entends plus, en fait.
Si, je t'entends, mais t'avais coupé, donc je t'entendais pas. Mais là, je t'entends.
Alors, c'est juste pour te dire qu'en fait, t'es déjà en train de spoiler le résultat du main event, là.
C'est vrai, mais bon, les gens l'ont déjà
Bon, donc
vu.
voilà, donc
Écoute, on s'en fout. Moi, c'est le show bleu. Moi, je suis là en vacances. Hein.
on Donc voilà, bon, bah,
C'est
on
pas
va
aussi
aller vite.
important que Monday Nitro, là. On est dans les secondes
Nous,
mains.
effectivement, c'est Asuka qui gagne la Battle Royale. Alors, c'est peut-être là où j'aurais une petite réserve à mettre. Effectivement, c'est logique que ce soit Asuka, dans le ring, c'était la meilleure. C'est elle qui a fait le plus d'éliminations, etc. Maintenant, les Battle Royale, moi, je vois ça comme l'opportunité de booker un underdog, quelqu'un qu'on n'avait pas vu venir, avec les favoris qui se font éliminer sur une collaboration de tous les autres, etc. Ça aurait peut-être pu être l'occasion de mettre quelqu'un d'autre. Mais
Ouais, mais alors tu
Asuka,
veux
ça me...
qui tu voulais
Asuka, ça me va bien
mettre?
aussi. Hein.
À part Naomi, éventuellement, je veux dire, le reste du roster, il a pas sa place en main event d'un pay-per-view. Hein.
On est d'accord,
Je veux dire,
mais
on n'aura
voilà, tout
pas.
ça.
C'est pour
Pour ça,
avoir.
le résultat, il me dérange pas. Je pense juste que ça aurait pu être une petite opportunité de booker quelqu'un d'autre en main event, quitte à ce qu'il se fasse ramasser comme une vieille chaussette après. Hein,
Ouais.
voilà, c'est peut-être le petit reproche que j'aurais sur toute cette histoire.
Alors Milo nous dit que Sonya Deville continue à assurer tout doucement. C'est vrai, mais vraiment tout doucement alors.
Faut attendre encore un peu, je pense, pour
Ouais,
l'annoncer.
elle est green à mort, hein. C'est pareil pour Mandy Rose, hein. Elle a fait une petite démonstration de force là pendant la Battle Royale. On va peut-être revenir un petit peu sur ce combat du coup de la Battle Royale. Elle a essayé de prendre en powerbomb Asuka, je crois, hein, Mandy
Non,
Rose à un moment donné.
c'est Naomi.
C'était Naomi, ouais.
Alors c'est un spot, j'ai toujours un petit peu de. Je suis encore en train de me demander est-ce que c'était vraiment réalisé correctement ou pas, ou
Non,
c'était
non, mais...
un cheveu. Parce que ça part sur un Hurricane Rana qui ne porte pas de Naomi, donc à savoir, est-ce que elle devait le contrer en powerbomb, ou elle devait prendre le Hurricane Rana et puis se relever tout de suite, et puis bon. Honnêtement, j'en sais rien. C'est du détail, vu de toute façon, les deux ont été éliminés. Il y a eu les éliminations. Bah, en fait, la plus marquante, je pense, parce que c'était un peu ridicule, c'était celle de Carmela qui, sur le bord du ring, pousse un hurlement pour qu'on la pousse pas dehors. Et bon, Asuka qui dit ok, je vais pas te faire mal, puis qui met un petit coup de pied pour la pousser gentiment.
Ouais. Voilà. Les autres, Asuka qui élimine aussi les deux Iconics en même temps.
Bah c'est ouais, c'est Asuka qui a fait le gros du taf.
Ouais. Deux trois un petit retour en force de Naomi à un moment donné, mais ça n'a pas porté ses fruits. Seiza Vega et Lana, ils ont commencé à se battre à l'extérieur du ring à un moment donné. Ouais. Non, on n'a jamais compris pourquoi.
Parce qu'en fait, Lana a éliminé Zelina Vega.
C'est possible. Non, c'est ça, je sais. Puis on peut plus faire un peu d'humour sur Zelina Vega et Lana, alors. Voilà, bah donc en tout cas, une belle affiche bouclée pour TLC. Et puis, franchement, succès sur toute la ligne hein, pour la division féminine, là, un petit peu en ce moment. D'un côté, ils ont réussi à mettre hyper over Becky Lynch, on n'en parle même pas tellement c'est au-dessus du lot. Charlotte, avec son passage à tabac de Ronda, elle est revenue dans les petits papiers des fans. L'ami Nia Jax, tout le monde la déteste, quand elle arrive elle a des bronchas de psychopathe, ça c'est assez phénoménal aussi. Salut à Hugo qui vient de débarquer. Donc voilà, hein, en un pay-per-view ou deux, ils ont réussi à rebooster complètement la division féminine avec des vraies stars. Et puis pour ce qui est de l'alignement heel et face, moi je pense qu'il faut que ça c'est un problème de Smart hein, de savoir qui est heel, qui est face.
Voilà, exactement. Moi Vince, je m'en moque.
Voilà,
Vince il a des bons matchs, c'est des gentils qui s'affrontent, bah OK. C'est des méchantes qui s'affrontent, bah OK, je m'en fous. Je veux voir un bon match moi.
Ouais, c'est ça. Des bonnes rivalités et etc. etc. Ah, salut Hugo, ça va? Tout va bien? On est bien. Voilà, Vince, ça fait longtemps hein, qu'il a dit qu'il voulait plus d'aller de le simple combat face contre heel. Le Miz dans une interview il y a pas si longtemps, l'année dernière, je crois à l'époque de WrestleMania, il expliquait que c'était toujours la politique de la WWE. Donc voilà, c'est il faut pas trop se casser la tête sur savoir. Est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce que c'est normal que elle soit gentille une journée, puis un peu méchante le lendemain, etc., etc. Ça a peu d'importance au final.
Exactement.
Et voilà. Puis ça fait des scénarios un peu plus riches et des personnages surtout plus charismatiques. Là, on est vraiment dans des persos qui sont plus dans la lignée de Steve Austin que de John Cena. Hein, c'est sûr. Hein, on est repassé une ambiance.
En déplaise à Giscale, John Cena, c'est plus ce qu'on veut voir, malheureusement pour lui. On veut voir plus du gars qui va se rebeller contre l'autorité, qui va, mais ouais. Qui n'oubliera pas que s'il a besoin de tabasser quelqu'un pour prendre la place, bah il le fera aussi. C'est ce que le public veut voir. Donc on va pas bouder notre plaisir.
Merci Hugo pour ton like, ça fait plaisir. C'est ça, likez, hein, mettez des pouces vers le haut. Abonnez-vous aussi, hein. Faut s'abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est gratos, hein.
Ouais.
Voilà pour ce qui est du Gonzès, donc vraiment succès sur toute la ligne hein, pour SmackDown. Ça va être peut-être le match qu'on va le plus attendre à TLC hein, je pense, cet affrontement là.
Ouais.
Y a un truc qui est cool aussi à SmackDown, c'est la division tag team.
Ouais.
Alors on revient un petit peu plus tôt dans la journée, on a une séquence backstage avec dans les coulisses, ou comment on dit, dans les vestiaires.
Dans les vestiaires.
Cesaro et Sheamus qui sont en discussion avec le Big Show. C'est carrément Cesaro qui engueule le Big Show parce que ils ont perdu à Survivor Series face à OPP parce qu'ils ont été distraits.
Pas à cause de la défaite de Survivor Series en fait, c'est à cause de la défaite de la semaine dernière contre New Day dans le match de bouffe de Thanksgiving.
Oui, bah les deux. C'est le cumul, hein, je pense.
Oui,
c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. évidemment, hein, Cesaro finit par se prendre une droite dans la gueule par le Big Show, qui quitte le vestiaire. C'en est fini de l'alliance The Bar Big Show. Ça a été expéditif hein, cette relation, mais ouais. Bon, visiblement le Big Show il est pas en état de performer hein, ou de catcher hein, plutôt. Donc je pense qu'il va retourner se faire soigner parce que là on voyait quand même qu'au niveau des genoux ça n'allait pas du tout. Hein.
Ouais.
Et ce soir The Bar, donc ils sont toujours champions hein, The Bar, affronte les Usos. les Ouzos qui nous font encore un petit angle dans les vestiaires là, face caméra, lâcher le flow à faire du rap, hein, yo. donc toujours super charismatique les Ouzos, et on paye évidemment un super match entre les deux équipes. Et victoire des Ouzos qui arrivent à battre les champions. Le titre n'était pas en jeu,
non.
Mais voilà, une victoire, les Ouzos qui reviennent dans la partie. Il y a rien de révolutionnaire, mais par contre, on a toujours du très très bon catch, hein, avec ces deux équipes-là.
C'est ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois. Cesaro Sheamus contre les Ouzos ou contre le New Day ou les Ouzos contre le New Day. On l'a vu, revu et encore, mais on en demande toujours autant parce que c'est toujours aussi efficace.
C'est
les
ça.
Styles sont complémentaires, les gars, il y a de la chimie dans le ring à un point que c'en est écœurant pour certaines autres équipes, je le pense.
Ils ont pas de problème
parce que bah, les trois grosses équipes sont tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie de les lâcher.
Ouais, non, ça va être très difficile pour les équipes qui vont arriver de réussir à se faire une place entre ces trois-là. Hein.
C'est ça. On a bien vu Sanity. Hein.
Ouais, Sanity.
On attendait beaucoup de leur arrivée, puis en fait, pétard mouillé.
C'est ça, exactement.
Et donc le match remporté par les Ouzos, bah, maintenant quelle va être la suite? S'ils étaient à Raw, ils auraient pu, comme Chad Gable et Bobby Roode, prétendre à un title shot la semaine prochaine ou au pay-per-view. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Dans ce cas-là, pourquoi pas inclure également le New Day, parce que New Day a également battu les champions il y a pas longtemps.
Ouais.
Un petit triple threat à TLC avec une petite stipule en plus, un tables match par exemple. Moi, ouais, ça me va, ça m'irait très bien. Je serais content.
Exactement. Si on avait les trois, à se foutre sur la gueule avec des armes dans tous les sens, on serait vraiment pas mal. Plus que pas mal. On aura sûrement une séquence la semaine prochaine de un défi des Ouzos,
Cesaro,
les New Day qui débarquent.
Voilà, il y a encore deux semaines pour booker le TLC, donc on a encore le temps de prévoir des matchs.
Ouais, de toute façon, ça, difficile de faire du mauvais avec Cesaro, les Ouzos qui sont quand même sacrément charismatiques maintenant. On sent qu'on est...
Ils tiennent les Ouzos avec leur gimmick du Ouzo Penitentiary.
Ouais.
C'est bizarre. Alors, c'est bizarre parce que ça serait plutôt une gimmick de heel si on prenait l'ancien alignement... Les gars, ils sortent de prison, ils font de tout SmackDown leur prison à eux et tout. Mais en fait, ils sont over, donc ils sont plus ou moins face. Puis on s'en fout. Ça marche, donc on s'en fout.
Voilà. Puis ils sont là pour les ceintures, ça fait plaisir de voir des mecs se battre pour les ceintures.
Exactement.
Et puis voilà, on sent quand même qu'il y a une volonté d'avoir des gros mecs charismatiques dans SmackDown, dans la visée que ça va devenir le show numéro 1 dans les mois qui viennent, hein, une fois que ça va passer sur la Fox.
Surtout que la Fox fait le forcing pour récupérer certaines top stars de Raw pour les envoyer à SmackDown.
Ouais. Il y en a plus beaucoup, hein, à Raw, mais
là en fait ils
veulent récupérer Ronda,
je crois. Ça va être la petite info en plus de la semaine. La Fox fait le forcing pour que Ronda Rousey soit transférée à SmackDown d'ici la fin de l'année et avant WrestleMania en tout cas.
Ouais, ça c'est pas impossible parce que la négociation elle s'est faite en partie parce qu'il y avait Ronda dans le roster de la WWE. Hein.
Oui, toi aussi. Oui.
Voilà. Donc, moi je suis pas. Je mets toujours des pincettes hein, autour des rumeurs qu'on entend, mais pour ce qui est de ce transfert-là, je pense qu'effectivement, il y a du vrai.
Surtout que mettre Ronda à SmackDown, ça permettrait de faire le triple threat à WrestleMania dont on nous parle depuis plusieurs semaines, Becky, Charlotte, Ronda, en main event de Mania, ça serait le bon moyen, quoi.
Ouais, c'est ça qu'il faut. Avançons, parce que l'ancien champion AJ Styles est de retour. Il vient au micro. Il a quand même eu un règne très long, hein, 371 jours.
Ouais.
Il est bien embêté quand même d'avoir perdu le titre, mais c'est pas ça qui l'enrage le plus. Ce qui lui pose problème, c'est la manière dont Daniel Bryan lui a tapé sur la gueule après le match, en s'essuyant les pieds sur son visage. Ça, c'est pas très bon. C'est même une grosse erreur de la part de Bryan et il paye rien pour attendre le coquin. Ils vont s'affronter à TLC, hein, je suppose.
Oui.
Voilà, le défi est lancé. Bon, c'est une promo d'AJ Styles, hein, donc il n'y a rien de vraiment transcendant. Hein. Lui, par contre, c'est un bon babyface. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Et donc, bah, voilà, bah, il se retrouve contre le méchant Daniel Bryan. C'était lors de sa promo. De toute façon, ça, c'est pareil, ça va donner un super match. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi?
Alors moi, ce que j'ai retenu de sa promo, c'est la petite allusion au fait que une fois encore, il a pris un coup dans les noix qui est dans le match. Il disait bon, j'aurais dû être habitué. Petite référence à toute sa feud avec Nakamura. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard de Nakamura. Et donc voilà, bon, rien de nouveau sous le soleil dans sa promo. Il a perdu son titre. Ça fait deux semaines. Qu'il veut le récupérer, mais il doit attendre parce que Daniel Bryan a pris la mode Brock Lesnar et ne se présente pas à tous les shows, alors que lui, AJ Styles, il fait tous les shows, tous les live events, tous les pay-per-view, etc., etc. Bon, voilà. Bon, on sait tous que AJ Styles, c'est pas le micro son point fort. Et il est pas mauvais non plus, mais c'est pas son meilleur domaine.
Ouais, il va pas électriser les foules, hein, avec son.
Ça, c'est sûr. Après, il a quand même eu une bonne pop, hein, je veux dire.
Ouais, du reste, très populaire.
Pour apporter auprès du public. Et bah, ça va nous donner un match, a priori, à TLC. Avec stipulation, sans stipulation, on va voir.
De toute façon, ça peut quand même bien.
Voilà. Puis au moins, ça fera un titre majeur défendu à TLC, puisque Lesnar, a priori, ne fera pas TLC.
Ouais, oui, oui, ça apparemment c'est enfin à moins d'une surprise, hein, jamais à l'abri d'une surprise. Alors pour ce qui concerne AJ Styles, si vous avez le network, il y a un 365 là, les documentaires où il passe une année avec un catcheur, hein, on en avait eu un pour Kevin Owens il y a quelques temps, qui est en ligne là depuis une semaine ou deux. C'est toujours très intéressant ces documentaires là, on voit un petit peu toute l'année d'AJ Styles. Donc il a été champion quasiment pendant tout le documentaire. Et bah, outre que c'est très intéressant de voir les coulisses, il y a quand même un truc que je voudrais souligner, parce qu'on critique souvent la WWE sur le fait qu'ils parlent pas des autres fédérations, etc., que le Japon n'existe pas, etc. Dans ce documentaire là, il y a énormément d'images de la TNA. Il y a une pub pour le Global comment ça s'appelle, Global Wrestling Network de Impact à la fin du show. Ouais, parce que ça s'appelle Global World Network, parce que ils voulaient transformer le nom d'Impact en Global Force truc, mais finalement ils n'avaient pas les droits. Alors ils ont gardé le nom pour le network, mais pas pour Impact. Ça, c'est compliqué.
Ils ont fait Global Force aussi parce que il me semble pour Global Force Network pour également parce qu'en fait ils sont en association avec d'autres fédérations.
Ouais, ils avaient racheté la Fédé Global Force de Jeff Jarrett. Mais au final, il y a eu un micmac et tout a été annulé. Mais ils ont dû garder le nom pour leur network, même si ça s'appelle Impact. Enfin bref, c'est la TNA, hein. Et il y a aussi tout un passage dans le documentaire sur le Japon, sur le Tokyo Dome, sur le passif de AJ Styles au Japon. Et on a l'impression que c'est les meilleurs moments de sa vie, hein, comme ils le vendent dans le documentaire. Voilà. Je veux dire, toutes ces critiques de la WWE, là, comme quoi elle fait pas attention à la concurrence, etc. Elle est toujours là à vouloir enterrer les concurrents. Comme on voit un petit peu, je sais pas si vous allez sur les sites de catch, il y a plein de problèmes par rapport au contrat de NXT UK, comme quoi ça va tuer le business en Angleterre. Voilà, tout ça c'est complètement idiot. D'accord, elle a une politique agressive à WWE, ils savent gérer leur business et ils vont pas se laisser manger par le peu de concurrence qu'ils ont finalement, parce qu'il y a personne qui est vraiment apte à les concurrencer réellement sur leur domaine. Ils font de la pub pour la concurrence carrément dans leur network, hein, donc et dans leur documentaire. Voilà, c'est juste que je voulais souligner, je n'ai pas trop de rapport avec le show, mais bon.
Le fait qu'ils fassent de la pub pour les autres, ça veut dire aussi qu'ils sentent suffisamment forts pour... Ah oui, non, mais on est les meilleurs, donc on va permettre aux autres d'exister aussi. Hein. Mais ils ne nous menaceront pas, donc c'est pas grave. Ça preuve aussi de leur confiance en eux-mêmes sur leur capacité à être les meilleurs.
C'est ça, et puis d'avoir une volonté que le business du catch dans le monde soit vivant et qu'il y ait de toute façon toutes ces fédérations là, voilà. Ça leur fait des écoles de catch pour leur roster.
Ah bah c'est sûr quand on regarde le takeover de qu'on a commenté la semaine dernière, le en fait à part Velvet in Dream, c'était que des stars de l'indépendant.
Ouais, c'est ça.
Dans le show.
Et ils ont pas tué les fédérations indépendantes à qui ils ont pris les talents. Je veux dire, la Ring of Honor, elle a jamais aussi bien marché. Le circuit anglais, il a jamais été aussi vivant. Le Japon, il buzz dans tous les sens. Même les Mexicains, maintenant, on en entend parler un peu partout. Donc,
Non,
la politique de la WWE est là pour que la VVE fonctionne et que le catch dans le monde fonctionne si ça se casse la gueule, comme tellement de commentateurs rêvent de la mort de Vince McMahon et de la fin de la WWE. Vous perdez la WWE, je pense que vous perdez totalement le catch. Hein.
Mais bon. Ah oui, ça c'est quasiment sûr.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, revenons à nos moutons. La suite des opérations. C'est l'anniversaire. Ah non, pas l'anniversaire de Jeff Hardy. C'est d'abord Shinsuke Nakamura. Si tu peux couper le micro. Shinsuke Nakamura qui affronte ce soir Rusev. Rusev arrive au ring. Il harangue la foule hein, en sortant les muscles. Nakamura en profite pour l'attaquer dans le dos avant que la cloche sonne. Un bon Kinshasa derrière la nuque. Un bon Kinshasa dans les dents. Rusev tombe à l'extérieur du ring. Il est un peu entouré par les arbitres, les officiels. Nakamura descend du ring, il fait mine de partir, puis il revient, il remet un bon Kinshasa dans la gueule de Rusev. Encore une fois, le combat n'aura pas lieu. Visiblement, Nakamura n'avait pas envie de catcher ce soir, pas envie de défendre son titre. Voilà, le Nakamura nouveau, méchant, qui n'a que faire du challenge. Mais à Rusev qui se fait laminer, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, ce que j'en pense, c'est un gâchis complet, les deux. Là, je sais pas quoi dire d'autre. Rusev, il fait de la figuration. Parce que je disais à un pote qui me demandait, est-ce qu'on va voir Rusev, parce que j'ai regardé avec lui, qu'on va voir Rusev ? Et je lui dis, comme je l'avais déjà vu une première fois, je lui dis, oui, mais il faudra pas que tu clignes les yeux. Tu vas le rater. Et donc, est-ce que ça va mener à un match à TLC? J'espère au moins que ça va mener à un match à TLC parce que sinon ça ne servait à rien. Voilà. Bon, maintenant je vais prendre quelques petites minutes pour parler un peu plus de Nakamura en lui-même. Parce que j'essayais de le défendre pendant un bon moment. Et là, je pense que j'ai atteint mon point de je peux plus. Là, c'est plus possible. Je me suis demandé, mais pourquoi je suis autant déçu de Nakamura à chaque fois? Est-ce que c'est parce qu'il veut pas catcher? C'est pas ça. Et je crois que j'ai trouvé mon explication personnelle. Parce que Nakamura, je l'ai découvert quand il est arrivé aux États-Unis. Je connaissais de nom seulement la New Japan. Je savais qui c'était de nom, mais c'est tout. Et j'ai vu son premier match à NXT TakeOver. Je crois que c'était Dallas face à Sami Zayn. Et j'ai été ébloui. Le mec, ce match, il était monstrueux. Il était magnifique. Et en fait, depuis, à chaque fois, je suis déçu parce que je retrouve pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Donc, je pense que je dois pas être le seul dans le même cas. Ça mène à une sensation de gâchis, de mauvaise utilisation. Peut-être que lui-même se sent pas à l'aise, etc. Il a montré tout ce qu'il savait faire en un match. Et maintenant, il doit recommencer à chaque fois parce que la fédération veut ça. J'ai l'impression qu'il vaudrait peut-être mieux le laisser partir.
Attention, parce que Nakamura, il est là en pré-retraite. Hein. il a une longue carrière au Japon où il a rempli Tokyo Dome, etc. C'était une énorme star là-bas. Il a fait des matchs énormissimes. Maintenant, il a morflé dans sa carrière parce que c'est des matchs au Japon, ils sont beaucoup plus durs, c'est beaucoup plus stiff, c'est beaucoup plus violent. Ils ont aussi envoyé affronter des combattants d'MMA pour des shows. C'était un peu le trip de Antonio Inoki à une époque d'envoyer ses catcheurs affronter les mecs de la MMA où il s'est fait défoncer la gueule, hein, Nakamura. Donc voilà, il a payé le prix. Je pense qu'il a bien galéré au Japon. Maintenant, il est à la WWE. On lui dit slow down. Hein, ça sert à rien de trop en faire. quand il essaye de monter un peu la cadence, bah, soit il explose la tête de Austin Harris, soit il manque de tuer John Cena. Donc voilà, il a un personnage qui fonctionne, il a une routine de qui est horrible, hein, sa routine de catch, mais en tout cas, c'est pas comme ça. Il perd pas l'overness auprès du public, il est champion US. Lui, il a tout gagné, hein, dans l'histoire, donc je pense pas qu'il partira de sitôt, Nakamura, et je pense pas qu'il soit pressé de partir.
Je pense que pour les fans qui sont déçus de lui,
ah bah pour les fans, c'est
ça serait peut-être la meilleure solution pour eux, de leur point de vue à eux, ça serait que à la limite on le laisse, enfin blessure scénaristique, on le laisse se reposer pendant un temps, puis quand il revient,
je pense qu'il est bien reposé, hein.
Mais voilà, faut trouver une solution, parce que là, bah, chaque fois que je vois Nakamura, je vois son entrée, je suis content. Parce que c'est quand même un team song qui est bien prenant et tout, mais je suis déçu du résultat final. Il y a que ces derniers temps, il y a que eu son match à Survivor Series contre Rollins qui était à peu près correct, et à chaque fois je suis déçu sinon. Donc,
Après dans sa rivalité avec AJ, dans le 365 on apprend que AJ Styles était blessé en fait, hein, pendant toute cette période. Ça explique peut-être aussi le manque de l'impact qu'ont eu ces matchs-là, et la déception.
L'angle des low blows à répétition.
Ouais, voilà.
Ok, je vois.
Maintenant, de toute façon, pour moi, Nakamura, c'est un peu, comment on appelle ça, une leçon, hein, ça va faire jurisprudence, quoi, hein, si on veut, il faut plus ramener de japonais à la WWE. On a la même chose avec Kenta à 205 Live, à Hideo Itami. Il a eu de graves blessures aussi, hein, mais ça donne rien au final. Hein. Pourtant, c'était une star aussi énorme que Nakamura, hein, au Japon, Kenta. Même Finn Bálor, quelque part, ou les Good Brothers, ils en font quand même rien au final. Donc c'est... Autant qu'il reste au Japon, en tout cas, on sait que le passage du Japon aux USA, ça va pas donner grand chose. Bah, c'était déjà comme ça à l'époque avec des mecs comme Masahiro Chono. Ça a jamais donné grand chose non plus, hein. Même Jushin Liger, il a jamais atteint les sommets non plus, malgré tout le talent. Le catch japonais, le catch ricain, c'est pas la même chose, hein.
Si on fait l'effort entre guillemets de faire venir quelqu'un d'une fédération japonaise, ça fonctionne pas vraiment, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le laisser
Mais je pense pas qu'à leurs yeux ça fonctionne pas, hein, aux yeux de la WWE, hein. Pour moi, il a toujours une pop quand il arrive, c'est le champion US.
Voilà, là
ils doivent vendre pas mal de t-shirts.
Je pensais à Itami. Parce que ouais. Kenta, le problème de 205 Live, c'est que à part quelques gens comme moi qui aiment bien regarder, c'est le bouche-trou du show, quoi. C'est là où on envoie tous les gens dont on sait pas quoi foutre. La preuve, ils ont envoyé Mike Canis, ils savaient pas quoi en foutre. Ils y parlent d'y envoyer Zack Ryder, ils savent pas quoi en foutre. Hop, à 205.
Ça permet aux gars de catcher, hein. Tu catches à 205, t'es déjà devant un public plus gros que n'importe quel gymnase que tu iras remplir chez les Indies, hein. Faut voir ça aussi, sûr. Hein. Les mecs, ils ont un salaire. Ça c'est bien, juste là c'est encore un truc, hein, la WWE qui est pleine de pognon, elle se peut permettre de faire un show comme ça qui intéresse finalement pas grand monde, mais elle se peut se permettre de le faire et de donner du boulot aux catcheurs, hein. C'est pas un mal, hein, les mecs. Voilà, de temps en temps on a un bon match en pay-per-view de cruiser. C'est sûr que il y a des choses à faire en plus, ils pourraient les faire revenir à Raw, qu'on ait une vraie division cruiser avec un truc vraiment mis en avant plutôt que Drake Maverick qui se pisse dessus, ça finira peut-être par arriver, on sait pas, mais on sent qu'il y a eu un faux départ avec cette division cruiser. Ils sont en train de réinjecter les luchadors là à Raw, mais
ouais, mais ça partait d'un bon sentiment au démarrage. Pour l'instant, ça prend pas vraiment. Bon, on verra par la suite si ça change, mais
À voir.
Pour l'instant, je reste prudent, on va dire, un peu comme avec Nakamura ou Itami ou d'autres qui reviennent du Japon, etc. J'attends de voir s'ils vont en faire quelque chose d'autre ou s'ils vont les garder comme ça, entre guillemets, pour empêcher que d'autres les utilisent et les abîment.
Exactement. Et bonjour au petit Dimitri qui est arrivé dans le dans le chat. Ensuite, ça y est, c'est l'anniversaire de Jeff Hardy. on y arrive. 20 ans de carrière quand même pour le Charismatic Enigma. Donc bah, il vient remercier la foule, hein, c'est que du bonheur. Il y a tout le roster qui est là pour l'applaudir. Donc bah, il nous explique que tout ça serait rien sans les fans, sans qui se rend quand on passe des images, hein, il y a des clips de sa carrière, il se demande comment il a pu exécuter tout ça. Il est heureux d'être en vie. Donc je vous disais, tout le monde était là pour l'accueillir, tout le monde, mais non, pas tout le monde. Il manque une personne. C'est Samoa Joe qui débarque et qui vient gâcher la fête tout simplement en défiant Jeff Hardy, puis surtout en mentionnant qu'il avait une bouteille de champagne dans les coulisses qu'il voulait apporter pour fêter ça. Mais c'est peut-être une mauvaise idée d'apporter une bouteille de champagne à Jeff Hardy. C'est les problèmes d'alcoolisme et de drogue de Jeff Hardy qui remontent à la surface. Voilà, ça s'énerve. Samoa Joe qui essaye d'être calmé un peu par notre ami Shane McMahon, mais ça fonctionne pas. Il est trop virulent. Et visiblement, bah, on s'en va vers un affrontement Samoa Joe-Jeff Hardy, mais ce ne sera pas pour ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Alors, le package vidéo, comme d'habitude à SmackDown, il était somptueux. Il était vraiment bien réalisé, pas de problème de ce côté-là. Ils ont été gentils de ne pas montrer le passage TNA de Jeff Hardy. Même si je sais que sur le network, ils ont déjà fait mention du fameux incident de Slammiversary à la TNA face à Sting. Donc, ils reconnaissent qu'il y a un côté sombre de Jeff Hardy, donc pourquoi pas, ça le rend plus humain, ça le rend humain encore plus, etc. Joe, il a pas de programme en ce moment, donc pourquoi pas aller embêter quelqu'un qui est un peu aussi en pré-retraite en ce moment, même s'il a précisé Jeff Hardy que c'était pas un discours d'adieu. Il n'allait pas prendre sa retraite à la fin de son discours, il a bien dit... Je sais pas ce que le futur me réserve, mais j'ai envie de le découvrir avec vous, etc. Bref. Donc Joe qui va titiller Jeff Hardy, moi je dis pourquoi pas. Le match peut être intéressant, il peut être moyen aussi, ça va dépendre de l'état de santé des deux, parce que c'est quand même deux gars qui, un peu comme les Japonais, ont beaucoup donné de leur personne dans le passé, avec des blessures graves pour les deux. Si ça se passe bien, ça peut être très intéressant. Ça peut être un peu compliqué, mais moi, j'ai envie de voir. Ouais,
bon, c'est un classique de la TNA, j'ai envie de dire. Hein, Jeff Hardy contre Samoa Joe, ça peut fonctionner. De toute façon, Joe, il va nous faire des bons angles. S'il commence en plus à s'attaquer au problème de drogue de Jeff Hardy, ça risque de donner des trucs plutôt sympas. Dans le mauvais goût, hein, parce qu'on aime bien le mauvais goût. Mais voilà, on veut ce genre d'affrontement, Samoa Joe contre Jeff Hardy, ça peut fonctionner, c'est des gros noms. Bon, après, c'était pas non plus le segment de la soirée. En tout cas, respect à Jeff Hardy pour toute sa carrière, hein. C'est du beau boulot, hein. La suite des opérations, c'est ce Kofi Kingston qui affronte The Miz. Alors on a eu un petit séquence backstage plutôt où le New Day est en train de se marrer devant des vidéos sur leur téléphone. Il y a le Miz qui débarque et puis ils interpellent le Miz. Il dit tiens, ça c'est vraiment ton meilleur boulot, c'est parfait, on est vraiment fan. Alors le Miz croit qu'ils sont en train de parler du Marine 6. Ouais, ils leur disent, ah, vous êtes des fans du Marine 6, etc. Mais non, ils sont en train de se marrer en regardant son match de la semaine dernière où le Miz a perdu dans son match tag team où il avait tenté de monter sa tag team avec Shane McMahon qui n'était pas très chaud lui de son côté. Ils ont perdu contre deux jobbers, les frères Briand. Donc là-dessus, il n'est pas content. Le Miz, il les engueule. Il leur dit qu'il va aller préparer un match pour ce soir. Et le match de ce soir, c'est Kofi Kingston donc contre The Miz. On découvre que Big E est fan du Marine d'ailleurs pendant la discussion. C'était assez drôle ce moment backstage. Pour le match, c'est victoire de Kofi Kingston. grâce au Trouble in Paradise. Bon, en même temps, il y a les deux autres retours qui font les cons, qui arrivent à distraire le Miz. Voilà, belle victoire de Kofi Kingston. Un peu intéressant de voir le New Day affronter un mec seul comme ça.
Alors, affronter le Miz tout seul, c'était un match correct, hein, même plutôt sympa.
Ils se connaissent pareil, par cœur, les deux là.
Voilà, c'est ça, ils se connaissent par cœur, ils ont commencé quasiment en même temps. Ça a toujours été des mid-quart d'heure solides tous les deux. Non, moi le match il m'a bien plu. C'est vrai que les interférences entre guillemets du New Day, ça peut poser problème au bout d'un moment. D'ailleurs, ça pose problème au Miz qui va s'en plaindre plus tard à Shane dans un autre segment backstage. Je vais revenir sur le tout premier segment backstage, celui qui amène au match. Moi, je l'ai adoré, honnêtement. C'était super bien joué. C'était un moment de comédie très bien trouvé. La tête de Billy quand il se rend compte qu'en fait, il dévoile à ses potes qu'il est fan du Marine, c'est génial. Le petit jeu sur il s'appelait comment le gars qui t'a battu, Dane, Kane, Sane, en sortant la photo de Kairi Sane du manteau de Biggie.
Ah oui, d'ailleurs, c'est une photo de Kairi Sane, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'ils ont avec Kairi Sane en ce moment.
Bah, il l'a amené jusqu'au ring en plus, cette photo, donc j'ai absolument pas compris. Biggie a-t-il un crush sur Kairi Sane? Cela ne nous regarde pas, mais bon, c'était assez rigolo, moi j'ai bien aimé. Et c'est franchement, bah voilà, ça c'est ce que je disais en antenne également. Ça c'est de la comédie qui est bien trouvée, qui tombe bien, ça rafraîchit, c'est pas lourd, c'est sympa, ça mène un petit match qui est sympathique. Moi je suis pour, plutôt que Drake Maverick qui pisse en sifflotant le team song de Bobby Roode.
Quoi, il y a Drake Maverick qui a pissé? C'était où? C'était quand? J'adore ces moments-là.
C'était à Raw cette semaine.
Super, j'espère qu'ils le referont la semaine prochaine.
Bref, voilà, donc chacun son type d'humour. Je préfère ce genre d'humour avec à base de on se moque gentiment de quelqu'un, enfin gentiment on se moque de quelqu'un, puis ça mène à un match derrière, plutôt que bon bah le gars on insiste lourdement sur un truc. Voilà.
Ouais, non, toujours efficace le Miz. Bon, après Kofi Kingston et le Miz, ils se connaissent par cœur, hein. Je pense que vous pouvez faire le match les yeux fermés, hein. Alors, qu'est-ce qu'il il reste encore un segment des Top Stars. Randy Orton qui arrive au ring avec le masque de Rey Mysterio, hein, la semaine dernière, il a arraché le masque de Rey. Il vient nous expliquer un petit peu ses agissements. Alors, c'est tout simplement qu'il respecte pas les masques de Luchador. Il en a, voilà, la tradition mexicaine, tout ça. Il s'en fout. Y a Rey Mysterio qui débarque, du coup, avec une Minerve. Il se dit que c'est une bonne idée de venir affronter Randy Orton alors qu'on a une Minerve. Il rentre dans le ring, il réussit à prendre l'avantage. Il va finir par se faire cueillir en remontant du ring. Il avait pris une chaise, hein, Rey Mysterio, pour aller taper sur Orton. Mais en remontant dans le ring, il se fait cueillir par le DDT. Là-dessus, Orton, il va commencer à le passer à tabac, lui arracher sa Minerve. Il va essayer de lui casser la nuque encore, comme il avait fait la semaine dernière, hein, en lui mettant sa chaise autour du cou, puis en marchant dessus. Là-dessus, il y a plein d'arbitres qui débarquent, les officiels, on va les séparer. Voilà, Randy Orton, très très méchant. Rey Mysterio qui se fait défoncer. Du très très classique, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Du très très classique, effectivement. À l'ancienne, très old school. Le méchant vient expliquer pourquoi il a tabassé le gentil, parce qu'il le respecte pas. Il respecte pas tout ce que l'autre respecte. Il en a rien à foutre de l'autre. Rey Mysterio, c'est juste une victime supplémentaire sur son parcours. Ouais, bah très simple, très classique. Le gentil, même blessé, qui vient défendre son honneur, ou du moins ce qu'il peut défendre, pareil, très classique. L'introduction de la chaise, à mon avis, c'est pour annoncer que ce sera un chair match à TLC. Ça, en tout cas, tout concorde pour ça. Très à l'ancienne, old school. Ça fonctionne. Il en faut de temps en temps aussi, hein, du old school. On va pas tout jeter d'un seul coup en disant il y a plus de deal, il y a plus de face, il y a plus que des gens qui veulent des choses. Bah là, non, ça fonctionne entre les deux parce que bah, c'est des deux catcheurs à l'ancienne, avec des gimmicks très marqués à l'ancienne, comme je dis, et puis bah, allons-y, un match à l'ancienne, hein.
Ouais, voilà, et puis ça leur fait une petite rivalité pas trop compliquée à faire. Puis voilà, c'est tu t'as récupéré Rey Mysterio, faut quand même que tu le mettes dans des intrigues. Il y a sinon Randy Orton, il faut aussi qu'il soit là, donc autant les faire s'affronter vite fait. Ça peut donner peut-être sûrement un match de la chaise pour TLC. Puis voilà. Ouais, bon, pas grand-chose à redire sur ce segment, hein. C'était quand même plutôt pas mal à regarder. Voilà, bah après on arrive au main event, donc c'est la Battle Royale qui est gagnée par Asuka, comme on vous l'a expliqué plus tôt. Donc bah voilà, tout se présente bien pour TLC.
Alors, t'as juste oublié un dernier segment qui concerne le Miz. Après le match contre Kofi Kingston, il va en coulisses se plaindre auprès de Shane que Shane n'était pas là pour l'aider dans son coin, etc. Parce que le Miz est persuadé qu'ils sont une tag team, etc. Bon, c'était plutôt sympathique aussi. Ça faisait vieux couple qui se disputent. Je trouvais que c'était bien tourné également avec le trophée Best in the World d'Arabie Saoudite. Qui
Ah
servent
oui, puisqu'il lui dit
sert entre
que.
guillemets d'enfant commun entre les deux.
Oui, j'avais oublié ça. Alors en plus, il y a des traces de doigts sur le trophée,
C'est
alors il est
ça,
pas
ouais, il est
content,
sale et donc
le
il faut
Miz.
le nettoyer. Voilà, bon, bah, le Miz dans toute sa splendeur comique, et on l'aime bien pour ça aussi, le Miz, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, non, ça c'est fun, c'est original. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ces passages-là. Hein. C'est
Ça, ouais.
plutôt la bonne réussite du show bleu.
Ouais.
Voilà, bah pour le reste, donc bon, on vous l'a dit, hein, Asuka s'incruse dans le triple frite. Bah du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Hein. Il va falloir trouver un top, un flop. Il faut mettre une note. Du boulot, tout ça, Dr. Karma.
Alors, le top, bah écoute, ça va être les segments comiques autour du Miz, hein, parce que voilà, ça, c'est le genre d'humour qui me plaît, que j'adore, donc moi je suis friand de ça. En plus, ça mène à des petites interactions, des petits matchs, des petites tensions entre personnes. Je suis pour, ça permet de construire des storylines avec. Donc ça, moi, ça me va très bien. Le flop, j'ai envie de dire la non-utilisation de Nakamura et Rusev, enfin plutôt l'utilisation qui ne me convient pas à moi. Moi, je voudrais les voir un peu plus se battre, mais tout. Et je comprends ce que, comme on en a parlé, je comprends que effectivement, il a son rythme de croisière. L'autre, bah actuellement, il est dans le creux de la vague, donc il faut peut-être le remonter avant. Voilà. Mais je voudrais en voir plus. J'aurais voulu un petit peu plus. Et la note, bah écoute, la note. Pour faire plaisir à Giscal et aussi parce que j'ai pas grand-chose à redire sur ce Raw, sur le lapsus, sur ce SmackDown, un bon 4, voilà, Giscal, tu as ton 4 de moyenne, tu as le 4 de ma part après avoir si Ringside, lui, est aussi enthousiaste que moi, voilà.
Oui, le 4 des familles. Ouais, alors moi je vais donner mon top. Je vais donner mon top à tout ce qui est tous les segments féminins qui sont bien réussis. Cette rivalité là entre Charlotte, Becky, Asuka qui revient dans la partie, ça c'est super. Tu sais que je m'intéresse pas au catch féminin en général, mais voilà, quand ça tourne autour de Becky Lynch, de Charlotte, de Asuka, là c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est très très cool, ça mérite un top. Le flop. Alors le flop, il n'y en avait pas vraiment dans le show pour moi. Je vais le donner à l'absence d'Andrade Cien Almas et de Sanity qui sont toujours portés disparus.
Alors, Almas, il était là pour saluer Jeff Hardy.
Ouais.
Je l'ai vu dans le groupe à un moment.
Ah, il était peut-être dans le
D'ailleurs,
dark match. Il y a souvent des dark main event ou des
ouais,
trucs comme ça.
ça. Après, alors petit truc, si tu disais que tout le monde était venu saluer Jeff Hardy, il y avait deux personnes qui étaient pas, Samoa Joe, et j'ai pas vu Becky Lynch non plus. Mais bon.
Pareil que Becky Lynch, ça peut pas blairer Jeff Hardy à distance. Alors, voilà, puis la note, je vais mettre un 4 aussi, hein, ça va être un bon 4, c'est une bonne cuvée en ce moment SmackDown.
Ouais.
On est loin de Impact. Ouais, il paraît que c'est pas mal Impact, j'ai pas le temps de regarder.
Alors, moi je regarde un peu vite fait. La semaine dernière, le truc de Thanksgiving, c'était ridicule. Faut pas regarder.
D'accord.
Cette semaine, c'était un petit peu plus intéressant.
Ok, ils font aussi des Thanksgiving de merde à Impact. On est d'accord.
Ouais. Avec des matchs où le perdant doit, enfin le gars qui prend le tombé, des matchs par équipe, mais le gars qui prend le tombé, il doit porter un costume de dinde à la fin. Ça donne pas envie de regarder, je te promets.
Ok, du bon boulot. Bah après, c'est peut-être le problème de Raw aussi, c'est que il y a beaucoup de gens de la TNA là-bas en ce moment, hein. Donc ici. Ça n'a jamais donné du bon à la TNA, ça se saurait.
Ouais.
Bah voilà, on a fait le tour de la question. C'est l'heure de l'auto-promo. Donc on est où ? On est, si vous nous regardez là, la version vidéo, c'est sur YouTube. Sinon, on est sur PodCloud, on est sur Spotify désormais, on est sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter @catchupcdc. On est là toutes les semaines. Il y a le supplément. C'était nous le supplément cette semaine.
Et oui.
Mais sinon, il y a le Catch Up Pro qui va arriver la semaine prochaine. Et puis donc le supplément dans la foulée. Bad Karma, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi d'avoir présenté. Merci à Giscal et IRM d'avoir accepté d'échanger pour cette semaine. Parce que honnêtement, comme je te le disais hors antenne, moi l'euro, je pouvais pas. J'aurais mis un zéro pointé, il y avait rien à sauver pour moi.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, moi je vais retrouver mon petit Ro chéri la semaine prochaine, je serai bien heureux. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat, ça fait toujours plaisir de vous voir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas, si vous nous regardez en replay. Pensez aussi à mettre des petits pouces vers le haut, des petits commentaires, on en a besoin. Merci à tous les abonnés, parce qu'on a passé les 600 abonnés quand même, donc ça c'est super.
Bravo.
Encore merci.
Bravo.
C'est que de l'amour. On est toujours aussi motivé à vous faire le podcast toutes les semaines. Du coup on se retrouve à très bientôt. Salut les amis, ciao.